Ici l'Europe, Dominique Bayard, Caroline de Camaret.
Bonjour à tous, bienvenue dans Ici l'Europe. Nous avons la tête dans les étoiles cette semaine avec de multiples missions vers Mars et puis une agence spatiale européenne qui va recruter des astronautes pour rester dans la course à la conquête spatiale. Voilà pourquoi nous recevons aujourd'hui un astronaute italien, Luca Parmitano. Bonjour, merci d'être avec nous.
Bonjour et merci pour l'invitation, c'est un plaisir.
Vous faites partie de la dernière vague d'astronautes recrutés par l'Agence spatiale européenne en 2009. Auparavant, vous étiez pilote d'essai pour l'armée de l'air italienne. Première mission dans l'espace en 2013, à bord de la Station spatiale internationale, un programme piloté par la NASA. Cette année-là, vous frôlez la mort lors d'une sortie dans l'espace à cause d'une infiltration d'eau dans votre casque. Et vous y retournez en 2019. Sur Terre, vous êtes aussi un sportif passionné d'aventure, amateur entre autres de triathlon.
Alors, effectivement, vous êtes en duplex avec nous depuis Cologne. Vous êtes très attaché à l'Agence spatiale européenne. Bien sûr, l'Union européenne, elle est chargée de définir sa stratégie spatiale. L'agence, elle met en œuvre avec l'aide de l'industrie. Mais elle est simplement, et expliquez-nous cela peut-être un peu, une agence intergouvernementale. Et certains disent qu'il est temps d'en faire une NASA, en fait, européenne, une vraie agence intégrée, plus efficace. Qu'est-ce qu'elle a de différent de l'américaine ?
C'est différent parce que la NASA, elle est dépendante du Congrès américain pour l'argent. Et donc, c'est une agence 100% politique. Vous voyez que chaque fois qu'il y a une nouvelle administration à la Maison-Blanche, pratiquement chaque fois, il y a un nouveau administrateur de la NASA et il y a des programmes qui changent. Et donc, ça, c'est une chose que nous, chez l'ESA, ça ne préoccupe pas parce que nous sommes coopératifs. L'ESA est indépendant. Nous présentons les programmes que nous pensons soient les plus intéressants, les plus importants. Et avec notre programme, voire les programmes maintenant pour la Station spatiale internationale, pour Gateway, pour la Lune et pour Mars, tous les États qui participent au programme ESA. Et là, c'est là que nous présentons notre programme pour la réalisation. Et chaque État nous donne son agrément pour participer au programme. Et donc, pour nous, c'est plus efficace. On pense d'avoir la capacité de présenter les programmes les plus importants.
Alors, ce jeudi, le robot américain Perseverance a pu se poser sans encombre sur la planète Mars. Les Chinois, les Émiratis, eux aussi, ont afflué cette semaine vers la planète rouge. Mais pas les Européens, une fenêtre de tir qui n'était pas auquel ils ont dû finalement renoncer parce que l'ExoMars, conçu avec les Russes, a été repoussé à 2022. Est-ce que vous avez des regrets ? Est-ce qu'il y a là un dysfonctionnement ?
Donc, il faut toujours voir que c'est extrêmement difficile d'aller sur Mars. C'est un planète très loin d'abord. Il faut attendre 18 mois chaque fois parce que les planètes, la Terre et Mars, soient alignées pour envoyer n'importe quoi sur Mars. Et il ne faut pas oublier qu'on a déjà une sonde qui nous donne des informations autour du planète Mars. Donc, on a réussi déjà en 2016 avec notre sonde spatiale de l'ESA arriver sur Mars et faire de la science. Justement, on n'a pas réussi en ce moment-là à envoyer un rover parce que c'est un programme extrêmement complexe et donc il faut attendre que les conditions soient les meilleures possibles. On a individué que la possibilité la meilleure sera l'année prochaine avec ExoMars 2020. Donc, notre rover sera sur la surface de Mars et fera de la science absolument nouvelle. Parce que les rovers de la NASA, jusqu'à ce moment-là, avec Curiosity et Perseverance, ils feront un certain type de science. Mais notre rover, il a une... trivelle qui va arriver jusqu'à un mètre, plus qu'un mètre et demi sous la surface de Mars. Et on pense que là, on aura de la science complètement nouvelle qui a été jamais faite. Mais il faut comprendre que quand on fait des choses qui n'ont jamais été faites, c'est plus difficile.
Alors justement, le robot Persévérance en question, il est équipé d'une petite caméra française, la Supercam, pour étudier les roches martiennes. Il y a aussi du matériel espagnol, norvégien. Finalement, peut-être que dans l'espace, c'est surtout la coopération qui prime, qui est importante, vous dites ?
En fait, on dit que l'ESA est le champion mondial de la coopération internationale. Ça fait 50 ans, c'était un vrai course vers l'espace, mais maintenant, on n'est pas dans ces conditions-là. L'ESA, elle vise à faire de la coopération internationale la plus grande possible avec la NASA, avec la JAXA, l'agence japonaise, avec Roscosmos, l'agence russe. Et on a des contacts avec l'agence chinoise parce que finalement, la course vers l'espace, il faut la faire tous ensemble parce que les programmes sont toujours plus complexes et c'est la coopération qui gagne.
Alors, Luca Parmitano, vous disiez qu'avec ExoMars, vous alliez faire des choses différentes que ce qui est fait en ce moment par le robot américain Perseverance. Mais finalement, nous, le commun des mortels, on se demande à quoi servent ces belles images qui sont ramenées de Mars. Et pourquoi est-ce qu'il y a aujourd'hui un tel engouement pour cette planète si lointaine ?
Il faut comprendre que la science a une valeur qui est indépendant de ceux qui en dépendent. Comprendre l'univers, l'univers qui est autour de nous, c'est une question fondamentale. Il y a des questions qui peuvent être, qui on peut répondre seulement si on va là, sur la surface de Mars, sur les planètes rouges, pour comprendre, par exemple, comment se forme la vie. C'est une des questions fondamentales de l'homme. Pour l'instant, on a plein de questions, mais on n'a pas de réponses. On sait que sur Mars, ça fait des milliards, des millions d'années passées, il y avait de l'eau, peut-être il y avait de la vie. Mais on n'a pas réussi jusqu'à maintenant, on n'a pas réussi à avoir la preuve. Donc, cette partie de l'exploration, c'est pour comprendre est-ce qu'il y avait de la vie sur Mars? Est-ce que c'est formé indépendamment que sur la Terre? Est-ce que peut-être qu'il y a de la contamination entre les planètes? Tout ça, on ne sait pas, mais c'est des questions fondamentales.
Alors la société...
En même temps, la recherche scientifique et technologique qu'il faut pour faire cette recherche a des investissements qui ont un retour sur la Terre, parce que tout ce qu'il faut inventer pour aller sur Mars, après on peut l'utiliser sur la Terre.
Alors justement, la société américaine privée SpaceX envisage d'envoyer une mission habitée sur la planète rouge dès 2024 grâce au lanceur lourd Starship. C'est ce qu'a annoncé son patron, toujours haut en couleur, Elon Musk. Des défis techniques, physiologiques, économiques énormes, vous le disiez, pour aller sur Mars. Vous croyez qu'il est capable de réussir en si peu de temps ?
Vous savez, ça fait 10 ans. J'étais pas un super fan de Elon Musk parce que, en tant que pilote d'essai, moi j'ai une approche très différente à l'expérimentation. Et parce que on fait notre vision en tant que pilote professionnel d'essai, c'est de faire une approche qui incrémente les risques. Elon Musk, il est un visionnaire et donc il a les moyens de faire une approche complètement différente qui est d'éprouver jusqu'au moment où on réussit. J'ai vu que son approche peut marcher et je pense qu'il a fait un très bon travail avec la navette Dragon. Maintenant, il faut comprendre qu'aller sur la station spatiale internationale à 400 km de distance, c'est beaucoup différent qu'aller à 200 millions de kilomètres de distance. Donc, je suis prêt à voir qu'est-ce qu'il est capable de faire. Je suis super curieux comme vous, comme tous les restes, parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas vu la totale capacité de Starship. Et donc, je suis curieux.
Alors, aller sur Mars, cela peut-être fait partie des rêves hein, de ceux qui vont postuler pour la campagne de recrutement lancée par l'Agence européenne spatiale. Elle veut donc une nouvelle équipe de spationautes. La campagne vient d'être lancée. Comment postuler? Les explications de Bilal Tarabet.
L'Agence spatiale européenne, l'ESA, recrute ses futurs astronautes. Entre 4 et 6 places sont disponibles pour faire partie de la prochaine génération d'êtres humains à poser le pied sur le satellite de la Terre. L'ESA a déjà réservé 3 sièges dans la future station spatiale lunaire permanente Gateway. Et pour ce premier recrutement depuis 11 ans, l'Agence spatiale européenne a un souhait, plus de femmes astronautes. Elle ne représentait que 16% des candidatures en 2008, l'année où le Français Thomas Pesquet a été sélectionné.
Je trouvais ça formidable si on arrivait à avoir la parité. 50% de filles, 50% de garçons, ce serait normal, on ne l'a pas fait jusqu'ici. Donc on verra qui s'inscrit et puis quelle équipe on peut trouver à la fin.
Le processus de sélection commence le 31 mars. Pour postuler, il faut avoir, dans l'idéal, entre 27 et 37 ans, mesurer entre 1m53 et 1m90, être diplômé de l'université dans une matière scientifique, parler l'anglais plus au moins une autre langue, le russe étant très conseillé, et avoir une condition physique et psychologique irréprochable. En 2008, Thomas Pesquet a fait partie des 6 personnes sélectionnées sur plus de 8000 candidatures.
Je pense qu'il y avait 9 étapes la dernière fois. Ça allait d'une visite médicale extrêmement poussée à des tests en groupe, beaucoup de tests psychotechniques, des choses comme ça. Mais je pense que c'est important de ne pas s'en faire une montagne. Il faut s'inscrire et puis prendre les tests les uns après les autres.
Autre nouveauté, cette année, les personnes handicapées sont encouragées à candidater. L'ESA les appelle déjà les para-astronautes. Résultat de ces sélections, octobre 2022.
Alors, Luca Parmitano, une campagne beaucoup plus ouverte hein, pour les handicapés, pour les moins de 50 ans. Quels conseils est-ce que vous avez à donner à ceux ou celles qui veulent candidater? Je dis celles parce qu'il y a encore trop peu de femmes.
J'ai qu'un conseil, c'est d'essayer. Parce que si vous êtes le bon candidat ou la bonne candidate, vous avez déjà tout ce qu'il faut. Et laissez-nous juger, laissez ceux qui soient les experts à dire si vous avez tout ce qu'il faut, the right stuff. Il faut pas changer, il faut se présenter avec un sens, un spirit d'aventure. Parce que je me rappelle très bien, j'étais avec Thomas pendant la dernière sélection, que c'était en fait une très belle aventure, très marrant. On a la possibilité de rencontrer des gens superbes qui sont super bons dans leur champ d'études, de travail individuel. Et donc, il faut y aller en pensant que tout c'est possible. Et c'est vrai qu'on voudrait plus de femmes parce que finalement, dans la vie normale, il y a 50% de femmes et on a envie, en tant qu'agence spatiale, de pouvoir accueillir toute cette expérience. Et on pense qu'il y en a plein. Pour les projets par astronaute, c'est un change de mentalité. Maintenant, l'inclusion, c'est vraiment un paramètre qui est important. L'inclusion, c'est une valeur qu'il faut amener dans l'agence et dans la vie de chaque jour. Et donc, c'est pour ça qu'on veut faire ces petits pas pour inviter des personnes avec de la disabilité à devenir astronautes. On ne parle pas des para-astronautes. C'est les projets qui s'appellent Para-astronaute Project, mais l'astronaute qui va être sélectionné, il sera un astronaute.
Alors, justement, on va retourner à une réalité, une actualité plus terre à terre. Si vous voulez bien, le monde, l'Europe sont en pleine pandémie. Pour s'en protéger, les gouvernements ont adopté plusieurs phases de confinement. L'accès au vaccin Covid est encore trop rare, ce qui fait polémique. Alors, est-ce que vous êtes vacciné? Déjà, première question, qu'est-ce que vous pensez de cette campagne de vaccination chez vous en Europe?
Ah, pour répondre à la première question, non, je ne suis pas vacciné parce que je ne suis pas vraiment dans la catégorie à risque pour l'instant. Et donc, je pense qu'il y a des gens qui ont la priorité. Et il faut se fier de la classification donnée par les experts parce que c'est à eux qu'il faut donner le pouvoir. Et donc, je pense qu'ils ont pris leur décision et j'atteindrai mon moment pour me vacciner. Je suis prêt à me vacciner, clairement. Qu'est-ce que je pense? Je pense que chaque pays fait ce qu'ils peuvent pour prévenir l'expansion de la pandémie. C'est clair qu'on n'a pas la boule pour voir le futur, mais En tant qu'astronaute, je pense que les scientifiques, tous les gens qui ont donné leur vie pour étudier ces phénomènes, il faut les écouter.
Alors, aussi, on va continuer sur l'actualité européenne de la semaine. C'est le nouveau gouvernement chez vous en Italie, dirigé par l'ancien président de la BCE, Mario Draghi. Un gouvernement technique qui a mis d'accord tous les partis politiques italiens, pratiquement, sauf l'extrême droite. Et l'Europe regarde avec beaucoup d'intérêt. Elle est fascinée par cette nouvelle donne politique en Italie. Vous-même, est-ce que vous suivez ce qui se passe et qu'est-ce que vous attendez de ce nouveau président du Conseil?
Mais bien sûr, j'ai suivi parce que je continue à être italien et européen. Et donc, savoir qu'il y a un homme qui a beaucoup donné à l'Europe, ça me donne bien sûr de l'espoir. L'Italie a besoin de l'Europe et l'Europe a besoin de l'Italie. Et donc cette ouverture, je pense que c'est une très bonne nouvelle.
En attendant, on est, comme je le disais, reconfiné sur confiné. Vous avez un peu vécu cette expérience du confinement, si je puis me permettre, dans la station internationale. Est-ce que vous étiez préparé spécifiquement? Qu'est-ce que vous nous conseillez? Vous avez certainement eu droit à de la sophrologie, à plein d'entraînements auxquels on n'a pas le droit. Mais comment tenir ce confinement qui commence à sembler long?
Tout d'abord, je voudrais dire que je suis vraiment privilégié. C'est parce que j'ai les moyens, j'ai de l'espace, j'ai un travail qui me permet de travailler chez moi et donc j'ai pas perdu la capacité de continuer à travailler avec les moyens télématiques et donc déjà je suis d'être super privilégié. En tant que conseil, il y a une phrase qui Alex Zanardi, c'est un parathlète italien, a dit quand il s'est réveillé après un accident où il a perdu ses jambes. Il m'a dit qu'il s'est réveillé et il a commencé à penser à tout ce qu'il avait et pas à ce qu'il avait perdu. Et je pense que ça, c'est un conseil qu'on peut utiliser chaque jour. Maintenant, il y a plein de limitations, il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire, mais il y a plein de choses qu'on peut faire. Donc, peut-être il faut prendre un moment pour penser à tout ce qu'on a, plutôt à ce qu'on n'a pas à ce moment-là.
Luca Parmitano, merci beaucoup pour ces conseils de sagesse. Et tout de suite, votre rendez-vous avec l'actualité sur RFI ou sur France 24.
À très bientôt à tous.
Carrefour de l'Europe, Daniel Desesquelles.
Dans la Russie de Vladimir Poutine,